avec la méditation de ce matin, mais prions tout d'abord pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence qui est encore manifeste ce matin. Merci pour ta grâce qui nous soutient et ta main toute puissante qui est notre secours et notre refuge. Nous voulons Seigneur nous disposer ce matin pour étudier ta parole, disposer pour recevoir de ta part des instructions, des directives, des recommandations pour cette journée et pour cette semaine. Tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, encore une fois, s'il était nécessaire, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nos habiletés, nos talents personnels, nos expériences, notre vécu d'hier, ne nous seraient en aucun cas, Seigneur, profitables sur le chemin que toi tu as pour nous. Alors nous te demandons simplement, Seigneur, de nous éclairer, de nous instruire, de nous conduire et de faire en sorte, Seigneur, que notre entendement soit ouvert à ta parole. Surprends-nous, Seigneur, par celle-ci. Surprends-nous par les bénédictions que tu répands sur nous. Surprends-nous, Seigneur, par les promesses que tu proclames sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère et sur ma propre vie. Et Seigneur, cette semaine, nous voulons simplement être comme des serviteurs et des servantes devant toi, que tu peux utiliser à ta guise, selon ton bon vouloir et ta sagesse. Alors bénis-nous tous en ce début de semaine et permets-nous, Seigneur, d'être le peuple que tu désires que l'on soit. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Je verrai tout à l'heure si il est possible de saluer plus de monde à la fin de notre séance. Je vous ai dit que j'ai un petit problème de connexion, mais ça ne semble pas vous affecter, donc on est content. Alors le passage qui va servir de méditation pour toute cette semaine, tel que c'est inscrit sur le titre d'aujourd'hui, chapitre 1. Oui, aujourd'hui, on va mettre une emphase particulière sur le verset 5 et graduellement, durant la semaine, on va aller jusqu'au verset 9 en prenant un verset par jour. Mais aujourd'hui, notre lecture, on va la débuter au verset 1, simplement pour comprendre un peu le contexte dans lequel le Seigneur va avoir proclamé chacune de ses paroles auprès de Josué. Alors, la Bible nous dit dans Josué au chapitre 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, son serviteur, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant ainsi selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors je reprends le verset 5, qui est le verset principal pour nous ce matin. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelle belle promesse pour commencer une semaine et quelle belle promesse pour commencer une journée. Et dans le cas de Josué, quelle belle promesse pour commencer une nouvelle phase, une nouvelle dimension dans son service auprès de l'Éternel et dans son service auprès du peuple d'Israël. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra, c'est nul ne yatsab. Y-A-T-S-A-B. Y-A-T-S-A-B. Bien sûr, c'est en hébreu. Qui veut dire nul ne pourra se stationner devant toi. Nul ne pourra établir une station devant toi. Nul ne pourra demeurer ou nul ne pourra rester devant toi. Ici, la Bible est en train de nous dire que l'opposition pourrait venir, l'opposition viendra peut-être, mais l'opposition devra finir malgré tout. Dieu n'est pas en train de dire à Moïse que tu n'auras pas d'opposant. On s'entend, il est en train de débuter une conquête. Donc logiquement, qui dit conquête, dit ennemi, dit territoire à s'accaparer, donc ennemi à déloger. Donc Josué, au départ, sait qu'il y aura de l'opposition. Mais ce qu'il sait aussi, c'est que cette opposition ne pourra pas rester ad vitam aeternam devant lui. L'opposition peut venir, l'opposition va certainement venir, mais assurément, l'opposition va aussi finir. Et c'est ça la grande chose que plusieurs chrétiens oublient. Ils pensent que maintenant qu'ils sont chrétiens, ben, ayant la victoire sur toute chose, ils n'ont plus de combat à mener, ou ayant la victoire sur toute chose, ils n'ont plus d'opposition, ils n'ont plus d'affliction, ils n'ont plus de combat. La Bible ne nous promet pas ça. Jésus a été combien opposé? Paul a subi la moquerie, a subi l'opposition. Tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, ont été opposés à un adversaire ou à des adversaires. Et il en est de même pour nous. La certitude qu'on a toutefois, c'est que même si une opposition se liguait et se levait contre nous, nous savons, étant enfants de Dieu, que cette opposition va un jour arriver à terme. Et une chose importante, on parle tous que Dieu est le Dieu de délivrance, que Dieu est le Dieu qui nous libère. Mais pour que quelqu'un soit libéré, il faut qu'il soit enchaîné. Pour que quelqu'un soit délivré, il faut donc qu'il soit captif pendant un certain temps. Pour que quelqu'un soit rescapé, il faut donc qu'il y ait une opposition à un moment donné qui se manifeste. Et la liberté, la délivrance, la victoire que Dieu nous apporte ne peut être adéquatement savourée, adéquatement comprise que si on voit l'opposition. La victoire vient après un combat. La victoire vient après un duel. La victoire vient après une guerre. Donc il n'y a pas de victoire sans guerre. Il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas de victoire sans opposition. On ne remporte pas une course sans avoir couru la course. On ne remporte pas un combat sans avoir combattu préalablement. Donc ici, on a cette assurance que oui, on va avoir des combats, mais oui, on va avoir la victoire et que oui, l'opposition va terminer. Alors que tu démarres cette semaine, sache que même cette semaine, tu vas avoir de l'opposition. Mais que cette opposition, même si elle durait toute cette semaine, elle viendra quand même à terme. Même si elle durait des mois, même si elle durait des années, nous avons toutefois l'assurance que la conclusion est que cette opposition et cette adversité va sauter. Il ne nous dit pas combien de temps va durer la conquête, il ne nous dit pas combien de temps le combat va durer, mais il nous assure toutefois qu'à la fin du combat, qu'à la fin de la conquête, nous sortons victorieux. Et il va dire, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, c'est le terme haya, H-A-Y-A-H. H-A-Y-A-H, qui veut dire apparaître. Donc je vais apparaître auprès de toi, je vais me lever auprès de toi, qui veut dire accompagner, je vais t'accompagner, et qui veut dire aussi établir. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ici, il est en train de parler, oui, qu'il sera présent dans l'adversité et qu'il sera à nos côtés lorsque l'opposition va venir. Voilà pourquoi David, dans le plus célèbre de ses écrits, va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. » Donc, notre Dieu nous assure que face à l'opposition, nous n'y allons pas seuls. Il est avec nous. Mais il est aussi en train de dire « J'établirai ma présence comme un mode d'opération à tes côtés. Je serai avec toi pour établir ma présence à tes côtés. » Les gens vont savoir que tu n'es pas seul. Comme David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath. Goliath lui demande « Mais qu'est-ce que tu viens faire avec des cailloux, des bâtons et avec une lance ?» Et David lui dit, toi tu viens avec la lance, mais David répond à Goliath, toi tu viens avec la lance et l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et c'est l'Éternel des armées qui va te livrer à moi aujourd'hui. Donc David est en train d'affirmer, moi je viens avec la présence de Dieu. Cette présence qui s'établit dans ta vie, cette présence qui s'établit dans ma vie comme un mode d'opération. Je tire de la présence de Dieu la puissance dont j'ai besoin. Je tire de la présence de Dieu le réconfort dont j'ai besoin. Je tire de la présence de Dieu les directives dont j'ai besoin. La présence de Dieu était manifeste dans la vie de Moïse. Et maintenant que Josué prend la succession de Moïse, cette même présence va être aux côtés, va environner le nouveau leader d'Israël, Josué. Donc Dieu te promet à toi aussi que sa présence va être à tes côtés. Il dit « J'établirai ma présence comme mode d'opération à tes côtés » et il donne une référence à Josué. Il dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». D'une part, c'est pour permettre à Josué de voir « Regarde ce qui s'est passé avec Moïse, tu peux t'attendre à la même chose ». Regarde comment Moïse a eu victoire dans ses combats, tu peux t'attendre à la même chose. Regarde comment j'ai pourvu pour Moïse pendant son chemin, tu peux t'attendre à exactement la même chose de ma part. Mais ce que ça veut dire aussi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, ça veut dire que de la manière dont j'ai fonctionné avec Moïse, je vais aussi fonctionner avec toi. Et rappelons-nous le premier verset que nous avons lu ce matin. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Moïse, mon serviteur. Quand Dieu est en train de dire à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse », il est en train de parler, « Moi j'étais Dieu, il était mon serviteur, et par rapport à toi, nous aurons le même type de relation. » Où moi je serai Dieu et toi tu seras mon serviteur. Alors pour prétendre à la protection de Dieu, pour prétendre à cette vie où l'ennemi ne peut pas perdurer devant nous, le critère important c'est que je sois moi aussi serviteur de Dieu. Et le terme serviteur, on l'a vu la semaine dernière dans les textes qu'on a étudiés le matin, c'est le terme Ebed, E-B-E-D, qui veut dire esclave et qui veut dire propriété de. Donc Dieu était en train de dire, moi je vais opérer avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse qui était mon esclave, qui était ma propriété et pour que toi tu bénéficies des mêmes grâces et des mêmes bénédictions, il te faut aussi être à l'instar de Moïse, mon esclave et ma propriété. Donc nous sommes propriété de Dieu. Et alors, il nous protège. Nous sommes propriété de Dieu. Et alors, sa présence devient un mode d'opération autour de nous. Nous sommes propriété de Dieu. Et alors, toute opposition doit un jour, ultimement, arriver à une fin. Mais à la base, le critère important, c'est que je sois serviteur de Dieu. La question pour toi, c'est que tu veux bénéficier des bénédictions du Seigneur, tu veux bénéficier des grâces de Dieu, mais es-tu effectivement serviteur de Dieu dans tous les sens du service, dans tous les sens d'être serviteur de Dieu? Donc être, oui, celui qui est en train de servir, être le servant de Dieu, être attablé à travailler pour Dieu, être attaché à exercer un service auprès de Dieu, mais de surcroît à ça, être aussi propriété de Dieu. Donc ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à Dieu. Pour que ses promesses se manifestent dans la vie de Josué, il fallait que Josué opère vis-à-vis Dieu de la même manière que Moïse avait opéré par rapport à son Dieu avant l'arrivée à l'apogée de Josué. Il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » En français, c'est pratiquement des synonymes. Ne pas délaisser et ne pas abandonner. En hébreu, c'est bien sûr deux termes distincts qui ont un sens particulier pour l'un et pour l'autre. Le premier terme, délaisser, c'est le terme Rapha. R-A-P-H-A-H. Pas Rapha, Jéhovah Rapha, c'est Rapha avec un H à la fin. Qui veut dire, je ne te laisserai pas couler. C'est vraiment l'image de celui qui est sur la mer et qui est abandonné à lui-même et qui finit par sombrer dans les flots, sombrer dans l'eau. De surcroît, ça veut dire être négligent. Donc Dieu est en train de dire, je ne te laisserai pas couler et je ne serai pas négligent à ton égard. Donc Dieu est en train de dire, regarde, je ne fomenterai pas, j'ai appris le terme aujourd'hui, je disais tout le temps fomenter, mais c'est le terme fomenter plutôt. Donc, je ne fomente pas l'échec de mes enfants, je ne me réjouis pas à l'échec de mes enfants, je ne planifie pas l'échec de mes enfants. Dieu est en train de dire à Josué, regarde, l'échec là, c'est pas moi qui vais le planifier. J'ai pas prévu dans ma tête pour t'apprendre l'humilité, pour t'apprendre ceci ou pour t'apprendre cela, que tu vas aller te casser le nez contre un mur. J'ai pas envie que tu échoues. Donc Dieu ne veut pas ni que Moïse, ni que Josué, ni toi, ni moi, que nous échouons. Dieu veut que nous allions de victoire en victoire. Donc l'échec n'est pas dans les plans de Dieu pour ta vie. Dieu ne sera pas non plus négligent dans son attention à ton égard. Ça veut dire que Dieu ne va pas pendant toute la période de l'attaque, pendant toute la période de l'épreuve, sera là, même sans épreuve, le regard constamment, inévitablement fixé sur toi. Dieu ne sera jamais négligent dans son attention avec toi. Plusieurs personnes n'osent pas commencer à travailler pour Dieu parce que la réputation qu'on a fait à Dieu, c'est la réputation d'un mauvais maître. Trop régulièrement, c'est peut-être plus trop à la mode, mais pendant un certain temps, on aurait dit que tous ceux qui travaillaient pour Dieu, c'était affreux de travailler pour Dieu. Tu n'avais plus faim, tu n'avais plus à manger, tu étais délaissé de tous, tu étais attaqué de toutes parts. Les seuls versets qu'on se rappelait, c'était « Oui, on nous regarde comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. » Et on disait « Ben, j'ai été en mission et ça a été tellement difficile, j'ai été dans tel endroit et puis ça a été affreux, et tout le monde m'a attaqué, tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a délaissé. » Servir Dieu, la Bible nous dit que c'est un joug léger, qu'il met sur nous un joug léger. Et le joug, ce n'est pas pour être une entrave, mais le joug, c'est pour permettre que la charrue que tu traînes pèse moins lourd sur tes épaules. Ça équilibre le poids pour que ton travail se fasse encore mieux. Le joug n'est pas une chaîne à ton pied. Le joug est quelque chose qui te permet de faire ton travail adéquatement et dans de meilleures conditions pour Dieu. Le travail de Dieu, le service de Dieu se doit d'être décrit comme un service qu'on rendrait pour un juge inique, pour un roi inique, pour un maître méchant. Notre Dieu nous dit, je ne te délaisserai point. Je serai là et je ne veux pas ton échec. Tu es mon serviteur, tu es ma propriété, alors je m'assure que tu ne sois pas dans l'échec. Tu es mon serviteur, tu es ma propriété, alors je ne serai pas négligent dans mes traitements à ton égard. Et il dit, je ne t'abandonnerai point. Le terme hébreu, azab, A-Z-A-B, qui veut dire déserter, qui veut dire aussi apostasie. Déserter veut dire que j'ai été là, puis tout d'un coup, j'ai abandonné mes responsabilités. C'est un des termes les plus horribles dans la nomenclature militaire. Quand on parle d'un statut militaire qui est le pire paria qui existe, c'est le déserteur. Quelqu'un qui s'est engagé envers ses frères d'armes, quelqu'un qui s'est engagé envers son pays et qui vient à être un traître, vient à abandonner au moment de l'épreuve, au moment de la guerre. Et Dieu dit, moi je ne serai pas un déserteur à ton égard. Et est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que lorsqu'il va t'envoyer sur le front, lorsqu'il va t'envoyer à la guerre, Dieu ne va pas agir en tant que déserteur. Il sera avec toi à ce moment précis du combat. Donc Dieu ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve. Mais ça veut dire aussi, ça voulait dire aussi apostasie. Et apostasie veut dire renier un pacte, renier un engagement. Dieu dit, regarde, la promesse que je te fais aujourd'hui, je n'irai pas à l'encontre de cette promesse. Si tu es mon serviteur, comme Moïse a été mon serviteur, alors oui, je te fais cette promesse, et cette promesse, je ne la romprai pas. S'il y a une rupture dans l'engagement, ça ne viendra pas de Dieu, ça viendra d'abord de nous, parce que Dieu est fidèle. Donc, tant que nous restons dans ce statut d'être serviteur de Dieu, les promesses qu'il a faites à notre égard sont oui et amen, ainsi soit-il. Jusqu'à ce que nous parvenions là-haut, tant que nous restons dans le statut de serviteur, mais dans le statut réel de serviteur de Dieu, comme celui qui est en train d'exercer un service pour son maître, mais dans celui aussi qui est propriété de son maître. Lorsqu'on reste dans ces paramètres-là, les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Il est là, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Dieu ne revient pas sur sa parole qu'il nous donne. Dieu disait à Josué, regarde, tant que toi tu remplis ta part de l'engagement, n'aie aucune crainte. Comme j'ai été avec Moïse jusqu'à la fin, je serai avec toi aussi jusqu'à la fin. Alors, quelle merveilleuse promesse, mais aussi quel moment d'introspection pour chacun d'entre nous. Savoir, suis-je vraiment au service de Dieu? Un serviteur sert. Si un serviteur ne sert plus, il n'est plus un serviteur. Pour être un serviteur, je dois servir. Donc la question, es-tu en train effectivement d'exercer un service auprès de Dieu? Lire la Bible, ce n'est pas servir Dieu. Prier, ce n'est pas servir Dieu. Lire la Bible, louer, prier, c'est tout simplement avoir une hygiène spirituelle adéquate. Avoir une hygiène spirituelle de base. La prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu font partie de la vie normale de tout croyant. Tu ne peux pas te dire croyant et ne pas pratiquer ta foi. Et pratiquer ta foi, c'est justement prier, lire, méditer, scruter la parole de Dieu, chercher la direction de Dieu. Par contre, quand on parle de serviteur, c'est quelqu'un qui se met à travailler pour Dieu. Es-tu en train de travailler pour Dieu? Peux-tu dire que dans les 7 jours qui sont passés, la semaine dernière, tu as fait quelque chose pour Dieu? Dieu a assurément fait des choses pour toi parce que tu es encore vivant aujourd'hui. Dieu a assurément répandu sa grâce sur toi parce que tu es encore présent aujourd'hui. Mais la question, as-tu servi Dieu la semaine dernière? As-tu servi Dieu comme un bon serviteur la semaine dernière? Avais-tu cette préoccupation de rendre service à Dieu ou d'exercer un service à Dieu? Rendre service, c'est comme lui faire une bonne action. Non. Étais-tu effectivement en train d'exercer un service pour Dieu la semaine dernière? Si ça n'a pas été le cas, tu as le temps aujourd'hui, parce que tu as le souffle de vie, de te reprendre. Sers Dieu. Sers Dieu. Sois un serviteur, et de surcroît à ça, reste la propriété de Dieu. Donc ne reprends pas les choses entre tes mains. Ne reprends pas les directions, la direction de ta vie entre tes mains. Laisse-la, abandonne-la, oublie-la entre les mains de Dieu. Sois son serviteur, sois sa propriété. Et si tel est le cas, Dieu te dit et Dieu me dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ils viendront peut-être s'opposer, mais à un moment donné, l'opposition devra arriver à terme. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Regarde tout ce que j'ai fait avec Moïse, je le ferai aussi avec toi. Regarde comme j'ai été fidèle envers Moïse, je serai aussi fidèle envers toi. Je ne te délaisserai point, je ne te laisserai pas couler, je ne serai pas négligent dans mon attention à ton égard. Je ne t'abandonnerai pas, je ne jouerai pas au déserteur. Si quelqu'un déserte, ce ne sera pas moi. Ce sera peut-être toi qui me déserteras, mais moi je te dis, je ne te déserterai pas tant que tu es mon serviteur, tant que tu es ma propriété. Et je ne reviendrai pas à l'encontre de mes propres paroles. Je ne reviendrai pas à l'encontre du pacte que je prends avec toi. Est-ce que tu es prêt toi aussi à prendre un pacte, une alliance de service, de propriété et d'engagement envers Dieu? Alors c'était là la parole pour ce matin. Demain on continue donc avec le verset 6, le verset suivant et ainsi de suite jusqu'à vendredi pour le verset 9. Donc laissez-moi prier avec vous avant de vous quitter ce matin. Seigneur, merci de ramener à notre mémoire ce passage important dans l'histoire d'Israël où un grand serviteur de Dieu, le père d'une nation, Moïse, a été amené auprès de toi. Et maintenant, Seigneur, c'est Josué qui prend sa suite dans un temps incertain, dans une nouvelle phase de la vie d'Israël, avec toutes les inquiétudes qu'une nouveauté suscite et avec toutes les inquiétudes qu'une prise de leadership peut susciter. Seigneur, dans notre vie actuellement, il y a tellement de choses nouvelles. On rentre dans une nouvelle étape, dans une nouvelle époque de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de notre société. Et pour certains, Seigneur, cette période peut être troublante, stressante. Savoir comment faire face aux nouvelles responsabilités, comment faire face aux nouveaux défis. Mais nous avons cette assurance, Seigneur, que si nous sommes effectivement ta propriété, si nous sommes effectivement tes serviteurs en exerçant effectivement notre service à ton égard, tu nous dis, Seigneur, que toute opposition va finir par sauter. Tu vas, Seigneur, arriver à mettre un terme à l'opposition. Donne-nous simplement, Seigneur, la patience, donne-nous simplement la force, donne-nous simplement la ténacité pour arriver à ce jour où l'opposition, Seigneur, est retirée de devant nous. Seigneur, les ennemis, tu les as retirés les uns après les autres face au peuple d'Israël pour leur donner accès à cet endroit, Seigneur, vers lequel tu les avais appelés, pour lesquels, Seigneur, tu leur avais promis un héritage. Alors nous savons, Seigneur, que tu as des bénédictions pour nous. Et nous savons, Seigneur, que tu bougeras, que tu déplaceras, que tu feras sauter toute opposition au long du chemin. Permets-nous simplement, tant que nous cheminons avec toi, de te rester fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas, que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonneras pas à couler. Tu ne veux pas notre échec, ô Dieu, mais tu veux notre victoire. Et tu nous appelles au succès et à la victoire. Victoire que tu as déjà remportée pour nous et que tu partages avec tes enfants, avec tes serviteurs et avec tes servantes. Seigneur, merci parce que au plus fort du combat, nous n'aurons pas à nous demander si tu es avec nous. Nous savons que tu es avec nous. Et que cette certitude, Seigneur, s'implante dans nos pensées. Pour qu'à l'instar de David, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous voyons la mort qui s'approcherait de nous, que nous n'ayons aucune crainte, parce que nous te savons à nos côtés. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de sentir ta présence. Nous savons que tu es là. Nous n'avons pas besoin de te voir agir. Nous savons que tu es là. Et parce que tu es là, la crainte est bannie. Alors merci Seigneur de nous rappeler que tu es avec nous en tout instant jusqu'à la fin. Je bénis ma sœur pour cette journée. Je bénis mon frère pour cette journée. Je les bénis pour cette semaine qui débute. Que ce soit une semaine d'ouvrage devant toi. Une semaine Seigneur où on sert devant le roi. Et une semaine Seigneur aussi où tu apportes un sceau d'approbation et de bénédiction sur ma sœur et mon frère. Garde-les, parle-leur, instruis-les, et amène-les, Seigneur, de gloire en gloire. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, j'espère que cette méditation de ce matin vous a béni. Je vais simplement voir qui c'est à nous. Je suis capable. Il semble que ça bloque encore un peu. Non, malheureusement, je n'arrive pas à vous voir pour l'instant. Oui, ça bouge un peu. Non. Non. Donc, désolé, tous ceux qui sont là, je vous salue. Ils sont au loin, sur d'autres continents. Habituellement, il y a la sœur Gloria qui se joint à nous. Habituellement, il y a Marlène. Ce matin, elle était là avec Leandro. Donc, on les salue encore. Si le pasteur Juan Carlos nous écoute depuis l'hôpital, on est content de savoir que ça va mieux. On continue à prier jusqu'à ce qu'il soit de retour en pleine forme à la maison. Cette opposition-là aussi va sauter. Le serviteur de Dieu est à son poste. Il travaille avec ardeur pour le Seigneur. Donc, cette opposition va aussi sauter. Amen. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve. J'allais oublier. Vous avez un rendez-vous important. Pas avec moi ce soir. Je serai là, mais en sourdine et simplement en observateur. Je vais être béni moi aussi. Le pasteur André commence des études bibliques le lundi soir à 19h sur le livre de l'Apocalypse. On entend tellement de choses actuellement. Plusieurs ont proclamé qu'on était déjà dans l'Apocalypse et tout ça. Nous, on veut vous expliquer ce que dit la Bible sur l'Apocalypse. On veut tout simplement étudier le texte, ne rien rajouter, ne rien retrancher, simplement expliquer ce que le texte dit. Donc, ce sera un temps béni. Vous en sortirez assurément fourbu de connaissances, et pas juste des connaissances intellectuelles, mais je crois des connaissances qui vous permettront de mieux faire face aux situations qu'on peut rencontrer actuellement, notamment dans les premiers chapitres où on parle des lettres aux églises. Il y a beaucoup à apprendre simplement sur ces petites lettres que Dieu envoie aux églises et qui s'adressent à nous encore aujourd'hui. Donc, soyez là ce soir, 19h. Ça va être sur Facebook et sur Zoom. Les indications vont être données sur la page web de l'église. Mais bien sûr, ça sera aussi diffusé en direct sur Facebook. Le frère Léonel, le frère Yann, les deux ou l'un ou l'autre seront là pour assister le pasteur André dans cette nouvelle initiative. Donc, soyez bénis, 19h. Et puis pour nous, on se retrouve donc demain matin à 8h30 pour une autre bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans la victoire et dans la paix. Amen.